Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 22 novembre 1963. Kennedy est assassiné. Au moment où Jackie Kennedy descend de l'avion présidentiel, ce 22 novembre 1963 à 11h30, après un atterrissage impeccable sur la piste de Love Fields à Dallas, l'épouse du maire lui offre un magnifique bouquet de roses rouges. Vous ne pourrez plus prétendre qu'on ne vous aime pas à Dallas. La population semble au contraire toute heureuse de vous voir, affirme l'épouse du gouverneur Connally en se tournant vers John Kennedy. Alors que la voiture officielle vire à l'angle de Houston Street pour s'engager dans Elm Street. « J'en ai l'impression en effet », répond le président. Ce sont ses dernières paroles. Au même instant, la première balle l'atteint. Il porte la main à la gorge. Souriante, Jackie salue les quelques personnes groupées de l'autre côté de la rue, puis se retourne sans comprendre ce qui se passe. Le président s'affaisse sur le siège arrière de la Lincoln Continental. Le fil des événements est relaté par le gouverneur Connally. Le président avait des joues ensanglantées. Il ne disait rien. Au même moment, je reçus une balle dans l'épaule. Je savais que la blessure était grave. Je tentais de me lever, mais je retombai dans les bras de ma femme. Et aussitôt, j'entendis un troisième coup de feu, peut-être un quatrième. Je me rendis compte que le président était de nouveau atteint. Il est 12h31 au Texas. John Kennedy est mortellement blessé à la tête. Des parcelles de matière cérébrale sont projetées sur la robe de Jackie. Ses bras, les sièges et le tapis de la voiture sont éclaboussés de sang. Elle soutient la tête de son mari tout en faisant des gestes désespérés vers les hommes du Secret Service qui suivent la voiture présidentielle. Quand retentit le premier coup de feu, elle se trouvait 10 mètres après le croisement de Houston Street et Elm Street, sur une diagonale qui part de la dernière fenêtre sur la droite au 5e étage de l'immeuble du Texas Book Depository et se termine au bas du pont de l'autoroute. Le chauffeur de la limousine présidentielle suit maintenant une voiture de la police de Dallas qui dégage la route pour gagner l'hôpital Parkland Memorial. Les sirènes hurlent désespérément. Les policiers braquent leurs fusils et leurs mitraillettes des deux côtés de la route, prêts à faire feu en cas de besoin. La voiture du vice-président Lyndon Johnson vient non loin derrière. Le cortège s'arrête devant l'entrée du service des urgences. Les hommes du Secret Service, mitraillettes au poing, se rangent en demi-cercle autour du véhicule. Au bout de 2 longues minutes, les brancardiers arrivent. Ils viennent au secours du gouverneur Connally, puis posant le brancard près de la voiture, y étendent John Kennedy. Il est 12h42. Dans le coma, le président est amené dans la trauma room numéro 1. Sa respiration est très faible et les battements du cœur ne sont détectés qu'à l'auscultation. Le jeune interne Charles James Carrico l'examine. Il remarque 2 blessures externes, une à la base de la nuque et l'autre plus large, par laquelle ont été expulsées les parcelles de matière cérébrale. Le médecin introduit un tube dans la trachée pour permettre la respiration artificielle. Examinant l'intérieur de la gorge, il voit une horrible plaie au-dessus du larynx. La respiration artificielle est aussitôt pratiquée. L'air est insufflé dans les poumons du président par une pompe électrique, puis de pompe à main pour aller plus vite. Arrive alors le professeur Malcolm Oliver Perry, chef du service de chirurgie, qui constate que l'occiput est écrasé. Le sang s'échappe à gros flots coulant sur le chariot et inondant le sol. La blessure à la trachée provoque la compression du sang et de l'air dans les poumons. Le professeur Perry décide d'opérer. Il se prépare à pratiquer une trachéotomie au-dessus du niveau de la blessure pour dégager l'asphyxie. La partie antérieure du brancard mobile est surélevée mécaniquement pour faciliter l'afflux de sang vers le cœur. Le professeur Robert McSelland, assistant du chirurgien en chef, remarque des bulles d'air s'échappant de la bouche du patient. Le poumon est perforé. À l'instant où le professeur William Kem Clark, chef du service de neurochirurgie, entre dans la salle de soins, il observe l'absence de pouls. Les pupilles sont dilatées. Elles fixent la lumière de l'ampoule du plafond. Les yeux sont divergents. Le tendon d'Achille n'accuse pas le moindre réflexe. Le professeur Clark entame un massage cardiaque. Des deux mains, il presse la poitrine du président selon un rythme régulier. Un assistant flagelle le blessé avec de petites baguettes de bois qui permettent parfois de relancer le cœur. Mais l'oscillographe reste immobile. À 13 heures, le décès est officiellement annoncé. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission. C'est Jean Ferrat qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1965, La Montagne.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est maintenant venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres préparés par Emmanuel. Il s'agit en fait de quatre livres exceptionnellement aujourd'hui, à commencer par le chant des Ganouches, l'odyssée tragique de la diaspora arménienne en Russie. C'est signé Yann Manouk aux éditions Albin Michel. Après la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Arméniens rêvent de reconstruire leur pays et leur histoire. Ils répondent à l'appel de Staline, du Parti communiste français et d'Organisation arménienne de France. Ils quittent la France avec leur famille, à bord du Rossiya en 1947. Ce ne sera pas la terre promise qu'ils vont rencontrer, mais l'enfer soviétique sur les bords du lac Baïkal, dans les camps de travail d'Erevan ou dans les goulags d'Yakoutsk. Les héros de cette bouleversante histoire vont devoir faire preuve de courage, d'un courage exemplaire et d'entraide. Le chant des Ganouches, l'odyssée tragique de la diaspora arménienne en Russie, c'est signé Yann Manouk et c'est publié aux éditions Albin Michel. Le cartographe des absences de Mia Couteau aux éditions Métayer. C'est l'histoire du Mozambique et de sa décolonisation qui nous est ici retracée. Tout débute en 1973, lorsque le Mozambique était une colonie portugaise. Les faits que nous raconte le narrateur, un blanc dans un pays noir, sont terribles. Le racisme, la bêtise coloniale, les préjugés, la terrible police politique, les traîtrises, les luttes pour l'indépendance du Mozambique, les luttes pour le développement de ce pays. L'auteur s'est inspiré de personnes et d'épisodes bien réels. La cartographe des absences de Mia Couteau s'est publiée aux éditions Métayer. Fièvre rouge au pluriel de Judith Rochman aux éditions Plomb. Julia Guzman est la fille d'un républicain espagnol mort pendant la guerre civile. En mémoire de son père, elle doit poursuivre une mission, la lutte contre le fascisme. C'est donc avec détermination qu'elle s'engage en 1951 dans la cellule communiste de la place d'Italie à Paris pour porter les idées du camarade Staline. Elle est accueillie par un certain Sergueï Dimitrov, membre très actif du parti. Mais malgré les tentatives de ce dernier pour la séduire, c'est de sa femme, Émilie, dont Julia se sent proche. Une idylle secrète née dans ce monde d'hommes où les femmes n'ont guère leur place. Dans l'intimité de ce trio sous tension, une autre guerre froide se joue. Fièvre rouge de Judith Rochman s'est publié aux éditions Plomb. Et pour terminer cette chronique, La dernière colonie de Philippe Sands aux éditions Albin Michel. Dans les années 1960, la Grande-Bretagne sépare Diego Garcia et les 54 autres îles des Chagos de la toute jeune république indépendante de Maurice. Et cela pour offrir aux États-Unis une base militaire sur Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel. Les Chagossiens, qui y demeuraient depuis le XVIIIe siècle, sont chassés brutalement de leur foyer et contraints à l'exil. Au mépris des mesures internationales d'après-guerre en matière de décolonisation. Un crime contre l'humanité dont il a fallu attendre 2018 pour qu'il soit reconnu devant la Cour internationale de La Haye. Parmi les victimes chagossiennes, Lise B. Élisée, une jeune mariée enceinte de son premier enfant. Pendant 50 ans, elle va se battre pour rejoindre sa terre natale. La dernière colonie britannique dans l'océan Indien. La dernière colonie de Philippe Sands s'est publiée aux éditions Albin Michel. Voilà, ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et nous nous séparons en chanson, toujours avec Jean Ferrat, nous écoutons Ma France, un titre de 1969.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.